Voilà, nous voilà de retour pour ce direct jusqu'à 19h pour le direct aujourd'hui. C'est la soirée de clôture du 10e festival, de la 10e édition du festival Les Sans-Culottides, un festival qui se déroule aux Grottes. Donc toi qui serais derrière ton ordi ou à l'écoute de Fréquence Banane, eh bien tu peux nous rejoindre ici à l'Almacène, c'est au 6 rue des Grottes, juste derrière la gare, pour notre l'interview qui arrive maintenant, l'interview d'après et celle d'après encore. Donc bienvenue à toi. Voilà, bienvenue Amanda également, désolé pour ce retard qui est consécutif d'un problème technique, dirons-nous.
Aucun souci.
Ouais, j'ai failli casser mon ordi là comme ça, mais bon. Alors bienvenue, tu es parmi nous parce que nous allons parler justement de... Alors déjà, tu viens de loin, donc vraiment merci beaucoup d'être venu jusque là. Nous allons parler solidarité, c'est le nom de l'association que tu représentes ici et dans laquelle tu es présente depuis combien de temps ?
Alors, je suis secrétaire générale de Solidarité Sans Frontières depuis 4 ans et demi.
D'accord. Et alors, tu l'as dit tout à l'heure, cette association est basée à Berne, mm-hmm. mais son rayonnement est dans toute la Suisse.
Oui, c'est une organisation nationale, c'est-à-dire qu'on a des membres dans toute la Suisse, Suisse romande, allemande et italienne, et puis... Ces membres, ce sont des personnes ou d'autres associations locales.
D'accord. Alors, on va préciser également qu'autour de nous, il y a des membres de l'équipe de Fréquence Banane et Libre Radio. Et donc, à tout moment, des questions pourraient surgir et te prendre de revers comme ça. Enfin, méfie-toi.
Mais volontiers.
Il peut arriver des choses.
Voilà. Notre garde ne s'arrête jamais.
Il faut que je fasse attention.
Prêt à sauter.
Voilà. Et puis, il faut que tu aies un regard à 360 degrés puisque tu es encerclé par les personnes qui posent des questions. Voilà. Donc, Solidarité Sans Frontières, l'association en elle-même, elle existe depuis quand ?
Alors, l'association, elle existe depuis 32 ans dans le sens où Solidarité Sans Frontières, c'est une fusion de deux associations, en fait, du mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire qui a été créé en 1986, donc il y a 32 ans, et puis de la coordination asile qui ont fusionné au début des années 2000 pour donner Solidarité Sans Frontières.
D'accord. Et de quoi est-elle née ? De quelle manière est-ce que tout d'un coup un groupe de gens se sont rencontrés et ont dit on va faire de la solidarité quelque chose d'extrêmement opérationnel et d'extrêmement concret ?
Ben, c'est très précis en fait parce que le MOD, donc le mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire, l'ancêtre de Solidarité Sans Frontières, il est né au moment où il y a eu le premier référendum qui a été lancé contre une révision de la loi sur l'asile en Suisse. Donc c'était en 86. C'était la deuxième réforme de la loi sur l'asile qui était née quelques années avant. Avant, il n'y avait pas de loi particulière. Mmh. Et puis, la première fois, bon, ben, il n'y a pas eu de référendum. Et puis, au moment de la deuxième réforme, il y a eu un référendum qui a regroupé, qui a été lancé par vraiment un spectre très large de personnes, d'organisations, depuis le centre-gauche jusqu'à l'extrême-gauche, ouais. En passant par un peu tout. Voilà, ça c'était à l'époque la création de ce mouvement. Et puis donc à ce moment-là, il y avait eu la création d'un comité vraiment référendaire, très traditionnel, mais en même temps, il y avait eu ce mode qui avait été créé pour prolonger le mouvement au-delà de simplement le référendum.
Et vous mettez en pratique d'ailleurs des valeurs immédiatement reconnaissables puisque vous êtes polyglotte, j'imagine, puisque toi-même tu es parfaitement francophone alors que l'association, elle, réside à Berne.
Ouais, alors moi je suis francophone, je suis la première secrétaire générale francophone de Solidarité Sans Frontières. Après, dans notre comité, on parle les deux langues, donc le français et l'allemand. Malheureusement, on n'a pas de tessinois dans le comité pour des raisons, je pense, plutôt pratiques, parce que c'est un peu difficile de venir à des réunions en semaine à Berne le soir depuis le Tessin. Mais sinon, on a les autres régions de la Suisse qui sont bien représentées, puis ça ne nous empêche pas d'avoir des liens quand même avec avec le terrain au niveau du Tessin. Mais moi, malheureusement, je ne parle pas très bien l'italien, c'est plutôt l'allemand et le français.
D'accord. Mais alors, est-ce à dire que le Rochtigraben n'est qu'une fiction ou est-ce que
Non, je dirais pas que c'est une fiction. Je pense qu'il y a, en plus, il y a des cultures politiques très différentes. Moi, je suis vraiment francophone. Hein. J'ai grandi en Suisse romande. Et puis, même mon allemand, il est vraiment loin d'être top. Mais je le vois au niveau de la langue, je trouve que ça va bien. Mais je trouve que c'est plutôt au niveau de la culture politique que c'est vraiment très différent. Pour moi, ça a été très surprenant d'arriver à Berne par rapport à ça.
Ouais. Voilà, alors c'était une question qui est en forme de boutade, mais qui en fait en cache une vraie quand même. Est-ce que l'on conçoit la solidarité de manière différente entre justement différentes régions linguistiques ? Et quand je dis quand on la conçoit, est-ce qu'elle nous fait agir de la même manière ? Est-ce qu'elle répond aux mêmes valeurs ? Ou est-ce qu'il y a quand même des différences, des distinctions qu'on peut faire ?
Bon, je pense que il y a des différences, ça peut être lié à la région, ça peut être lié à plein d'autres choses, notamment l'appartenance politique, parce que dans la lutte pour les réfugiés, pour les migrants, pour les droits humains, il y a vraiment des courants politiques très variés. Après, je dirais qu'il y a vraiment une culture politique très différente en Suisse romande et en Suisse allemande, influencée respectivement par la France et l'Allemagne, mais aussi par notre réalité romande ou suisse alémanique. Mais il y a aussi la réalité du fédéralisme suisse, on va dire, qui fait que si vous prenez les luttes à Neuchâtel puis à Genève, c'est déjà assez différent. Dans le sens où les décisions politiques, les réalités aussi des migrants dans un canton ou dans l'autre, elles vont être très différentes en fonction finalement des gouvernements cantonaux, des parlements cantonaux. Donc vous n'avez pas du tout la même réalité à Zurich, à Genève ou à Neuchâtel. Mais malgré ça, on a quand même des points qui nous unissent. Ouais.
D'accord. Y a-t-il des associations PARS avec lesquelles vous fonctionnez très régulièrement lors de vos campagnes, sur lesquelles on va d'ailleurs revenir par la suite ?
Alors, je dirais nos organisations vraiment partenaires, c'est vraiment les organisations locales, politiques, actives dans les cantons. Pour Genève, vu qu'on est à Genève, je dirais qu'on travaille beaucoup, par exemple, avec Solidarité TAT, avec la coordination Asile, avec aussi le CSP Réfugiés. Dans d'autres cantons, ce sera Droit de Rester, en Suisse allemande, Bleiberecht, Tauenhof, etc. Mais après, Solidarité Sans Frontières, c'est aussi une organisation qui fait des ponts avec des groupes ou organisations plus institutionnelles, c'est-à-dire que nous, on a aussi lancé des référendums. Quand on se lance dans des campagnes comme ça, on va travailler aussi avec les partis politiques. Quand on organise une grande manif à Berne, on travaille avec tout le monde. À notre dernière manifestation en juin cette année, il y avait une soixantaine d'organisations qui ont participé. Et puis parfois sur certaines campagnes, on va aussi avoir des alliés type Amnesty International, par exemple, avec qui on travaille maintenant sur l'appel Dublin. Voilà, disons qu'on est très ouvert, mais dans le quotidien, dans notre ligne politique, on va être quand même plus proche de ces organisations activistes du terrain.
D'accord. Tu viens de dire appel Dublin, on pourrait citer également l'article 12. Toutes ces choses-là sont des questions quand même... Alors, on ne va pas les aborder dans le détail aujourd'hui, on reviendra là-dessus parce qu'elles peuvent être des fois compliquées, mais ça nécessite qu'effectivement, autour de ça, il y ait des personnes qui passent du temps à potasser les textes et à réfléchir à la moindre virgule, j'aurais envie de dire. Alors, qui est l'équipe et comment l'équipe s'organise au sein, justement, de Solidarité Sans Frontières pour justement arriver à avoir l'acuité nécessaire à dénoncer et à voir peut-être même les failles et à réagir à ça?
Bon, alors déjà, il faut dire que Solidarité Sans Frontières, c'est quelque chose que j'apprécie. On a vraiment beaucoup de générations qui sont représentées. Donc, dans notre mouvement, on a vraiment encore des personnes qui étaient là au tout début du mouvement de l'asile en Suisse, comme Annie Lanz, dont peut-être on parlera après. Donc, elle, qui a 72 ans, qui a été notre secrétaire générale, puis qui est restée dans le comité encore jusqu'à l'année passée. Donc, on a vraiment des personnes qui militent depuis 40 ans comme ça et qui ont vraiment non seulement la connaissance, mais aussi, disons, l'expérience politique, l'expérience concrète. On a aussi beaucoup de jeunes maintenant qui viennent des nouveaux mouvements qui se sont créés aussi depuis 2015, je dirais, autour de la soi-disant crise des réfugiés, qui sont des mouvements complètement différents. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas du tout la même chose de faire une collecte de tentes et puis d'aller les amener à Calais qu'à l'époque, on va dire, peut-être cacher des gens au fin fond du Jura ou j'en sais rien quoi. Donc, bon, il y a plein de formes, il y a des nouvelles choses. Après, nous, on est une équipe de... Donc, on a Solidarité Sans Frontières, c'est une équipe professionnelle, on va dire, de 3 personnes. Donc, on est 3 employés de l'association à Berne. On a un comité d'une dizaine de personnes qui se réunissent tous les mois à peu près. Et puis on a environ 3000 membres dans toute la Suisse qui se réunissent en assemblée générale. Mais bon, et en général, il n'y a pas 3000 personnes qui viennent, je vous rassure, il y a beaucoup moins. Et puis ça peut être aussi dans des réunions thématiques ou des choses comme ça. Mais du coup, disons, l'expertise, entre guillemets, comme tu dis, c'est le secrétariat, c'est le comité et puis c'est le réseau, parce que c'est un réseau énorme en fait. Mmh. Et notamment, j'ai un collègue un de mes 2 collègues qui est responsable de tout ce qui est documentation, archivage, qui lui, ben, en fait, archive tout. On a des traces de toutes ces luttes depuis 30 ans. Et donc, lui, c'est aussi vraiment la référence en tout ce qui est politique d'asile.
Ouais. Et on sait l'importance qu'ont les archives dans ce type de travail, en tout cas. On ne l'a pas encore dit, donc immédiatement, on va le faire. Le site internet, c'est www.sosf.ch.
Oui.
Sur le site, on trouve énormément de choses par ailleurs. Hein, la philosophie, qui êtes-vous, les sujets, les campagnes, les news, les publications. Et puis, devenir actif. Alors, justement, de quoi auriez-vous besoin s'il fallait immédiatement lancer un appel ici radiophonique? Est-ce que c'est un peu d'argent, un peu de nouveaux membres, et si des nouveaux membres, dans quel corps de métier? Tout ça.
Alors, nous, on aimerait avoir des nouveaux membres. Parce qu'en fait, ça c'est lié à l'argent, si vous voulez, dans le sens où on remarque qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un peu, des fois, un engagement, un peu zapping. Donc, on fait une campagne, on reçoit un don d'une personne. Même des fois, elle s'abonne à notre bulletin ou elle devient membre, mais en fait, on la perd très vite. Et donc, on a vraiment besoin, nous, de nouveaux membres, disons, fidèles, qui restent sur la durée, sur qui on peut compter. On peut aussi s'abonner à notre bulletin, qui est publié quatre fois par année. Oui, et après, évidemment, il y a différentes formes d'engagement. Il y a des gens qui sont membres, qui reçoivent le bulletin, et puis ça s'arrête là. Il y en a d'autres, et c'est déjà très important. Il y en a d'autres qui ont un engagement militant, c'est-à-dire qui viennent soit ponctuellement pour des événements nous donner des coups de main, soit alors carrément des bénévoles. On en a quelques-uns qui sont vraiment presque dans l'équipe, quoi.
Ouais,
enfin, dans l'équipe au bureau.
Ouais. Est-ce qu'il y a des populations vers lesquelles vous avez envie d'aller de plus en plus? Typiquement, nous, on est par exemple une radio universitaire, donc l'université, les étudiants, ça, c'est une population qui est peut-être pas encore assez touchée, ou à l'inverse, c'est plutôt assez facile et c'est ailleurs qu'il faudrait essayer d'aller.
Non, je pense que c'est. Je pense que les étudiants, en général, sont assez sensibilisés, sont peut-être plus sensibilisés à ces questions-là qu'ailleurs dans la population. Moi, on n'a pas vraiment des cibles en particulier. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement des personnes plus jeunes, mais qui essayent d'avoir cette fidélité à une organisation. Dans le sens où c'est un truc qui s'est un peu perdu, et je trouve ça bien dommage. En fait, la force d'une organisation militante comme nous, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, on est complètement indépendant de l'État. Nous, on ne reçoit aucune subvention. On vit uniquement des dons et des cotisations de nos membres. Bah, notre force, c'est d'être capable de prévoir un peu, puis d'avoir une base un peu sur laquelle on peut compter. Et ce phénomène, le fait d'avoir des personnes qui viennent seulement en fonction des thématiques, ça nous fait perdre beaucoup de stabilité, en fait.
Comment t'expliques que justement les personnes qui viennent le font de manière un petit peu épisodique, comme tu viens de le dire, c'est assez nouveau finalement, et puis ça bloque un peu, j'ai l'impression que ça c'est un problème quand même.
Oui, mais c'est pas seulement chez nous, hein. C'est vraiment un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que les grosses organisations, les grosses ONG, ils font vraiment des campagnes marketing. Je veux dire, on met tout sur des campagnes, on reçoit plein de dons, et puis ça nous permet après de continuer. Bon, nous, on fait pas ça. C'est pas trop dans notre philosophie. Puis de toute façon, on n'aurait pas du tout les capacités de faire ça. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, je pense que c'est un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire, on est un peu dans la consommation du militantisme parfois. Donc, on a une thématique qui est un peu à la mode. On s'intéresse. On donne un peu de son temps, et puis finalement après on est appelé par autre chose, et puis on laisse un peu de côté les engagements. Mais bon, il faut se rendre compte que dans tous les domaines, hein, mais je dirais par exemple dans le domaine de l'asile, où quand on dit on va défendre des réfugiés politiquement aussi, il y a vraiment un besoin de durée, ne serait-ce que pour les personnes elles-mêmes. Je veux dire, si vous regardez les luttes qu'il y a eu sur Genève par exemple autour de nos bunkers, vous avez une lutte très spectaculaire pendant quelques mois, mais je peux vous dire que les gars qui étaient au Grütli, la plupart, ils sont par là, à la recherche d'une solution. Donc, ce n'est pas des choses qui se règlent en quelques semaines. Et puis, le problème de fond, il ne se réglera pas non plus en quelques semaines ni en quelques mois. Donc, on a besoin de cette durée, puis on a besoin, d'une manière générale, je pense, d'un militantisme un peu plus de fond et puis un peu plus fidèle sur le long terme.
L'appel est lancé, en tout cas, effectivement. Non, mais c'est vrai que les luttes doivent durer et qu'elles ne le peuvent que si les personnes, eh bien, durent également. Et l'exemple des TAT, hein, nous qui nous sommes déjà rendus à plusieurs reprises dans le temps aux TAT ou avec, en complément, en accompagnement de personnes, on voit bien que ces problématiques-là, comme tu viens de le dire, ne seraient que pas en quelques mois, mais c'est vraiment des années et des années. Si des questions surgissent, n'hésitez vraiment pas à prendre le micro et à poser la question. On va le rappeler, donc www.sosf.ch, ça c'est le site internet de l'association. Qu'en est-il, tu viens de le dire, alors vous ne recevez aucune subvention, alors le financement se fait avec les cotisations et des dons, j'imagine. Vous organisez des soirées, ou de quelle manière est-ce que les personnes peuvent contribuer? En allant sur le site, on peut vous faire un don assez facilement?
Oui, en allant sur le site, dans Devenir actif, il y a un menu déroulant, et puis il y a plusieurs trucs à choisir, puis il y a faire un don. Donc il y a la possibilité de demander un bulletin de versement, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent encore faire par bulletin de versement, ce qui va tout à fait. Ou alors il y a la possibilité de simplement faire avec de Paris Banking avec les coordonnées bancaires, ou encore de faire un versement par PayPal. Donc ça, c'est pas un souci. Après, nous, on envoie notre bulletin à 3000 et quelques personnes dans toute la Suisse. Donc avec le bulletin, il y a toujours aussi une lettre qui rappelle quelle est la lutte du moment ou pourquoi en ce moment on a besoin d'argent. Et donc avec un bulletin de versement, et là c'est là qu'on reçoit une partie de nos cotisations et de nos dons. Et puis sinon, on a aussi une newsletter qu'on envoie à 4500 personnes très régulièrement. Avec, c'est pas des appels ou dons, c'est vraiment des informations sur, parce qu'un des rôles principaux de Solidarité sans frontières, c'est vraiment de mettre en réseau tous ces acteurs et puis de les informer. Qu'est-ce qui se passe maintenant au Tessin? Qu'est-ce qui se passe à Genève? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Aussi, qu'est-ce qui se passe à Berne? Qu'est-ce qui se passe au Parlement? Ça, c'est très important aussi de savoir au niveau institutionnel qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Après, sur des projets concrets, on recherche aussi des fois de l'argent différemment. On peut approcher des organisations, leur demander une participation ou comme ça. Comme par exemple, là, on avait cette année, c'était les 10 ans. Ça fait 10 ans que la Suisse applique le règlement Dublin. Donc, on a fait aussi un événement un peu plus grand. Et puis, on a fait un peu de recherche de fonds particulière pour cet événement.
Ok. Quels sont les retours que vous avez des différents publics qui vous côtoient ou qui vous observent? Est-ce que, et le deuxième volet de la question, c'est est-ce que la vision de ces personnes-là a-t-elle évolué? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que de temps en temps, il y a des moments où une forme de solidarité s'installe plus facilement qu'à un autre moment, que des fois, ça devient, voilà, par exemple, la personne en exil devient assez facilement suspecte, toutes ces choses-là. Est-ce que ça, tu observes un changement de paradigme, un changement de vision par rapport à ça?
Bon, moi, ça fait plus longtemps que je suis dans le mouvement, mais ça fait que 4 ans et demi que je travaille à Solidarité sans frontières, donc c'est un peu dur de vraiment voir des tendances. Après, j'ai reçu des menaces de mort, des choses comme ça, suite à des interviews sur des grandes chaînes, par exemple, ou des gens qui téléphonent pour râler, pour m'insulter, ou des choses comme ça. Mais je dirais que c'est quand même assez minoritaire, je dirais, ça arrive pas souvent. Ce que j'observe dans mon entourage personnellement, c'est que depuis justement cette soi-disant crise des réfugiés de 2015, il y a quand même plus de sensibilité pour ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui, j'aurais catalogué un peu de pas trop ouverts, tout d'un coup ont envie de faire quelque chose pour les réfugiés. Même des gens qui n'auraient jamais été dans la politique ou dans des luttes ou comme ça, qui tout d'un coup disent « Ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ?» ou comme ça. Ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent aider concrètement. C'est assez difficile de trouver des gens qui veulent s'engager politiquement, c'est normal, mais enfin des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui veulent faire un geste, ça, il y en a plein, puis ils veulent faire un truc utile. C'est pas se montrer, c'est pas, non, c'est vraiment où c'est que je peux aller donner des habits, où c'est que je peux aller donner des cours d'allemand ou des choses comme ça. Mais vraiment, moi, j'ai vu ça de la part de personnes que j'aurais pas du tout soupçonné pourrait tout d'un coup avoir envie de faire ça.
Ouais. Pardon.
Ah, il y a juste un petit point sur lequel je veux revenir. Ça fait déjà 2 fois que tu utilises le terme soi-disant crise et que migrant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus pourquoi?
Ben, en fait, je trouve que les médias ont beaucoup parlé de crise des réfugiés ou crise des migrants. À mon avis, on n'était pas face à une crise des réfugiés, on était plutôt face à une crise de l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté politique de fermer les frontières et puis de faire tout un théâtre aussi autour de l'arrivée des réfugiés syriens. Donc on a eu effectivement énormément de gens qui sont arrivés, mais on aurait aussi tout à fait eu les possibilités de gérer ça autrement et d'éviter une crise, en fait. C'est-à-dire. Donc pour moi, le terme de crise, il est connoté très négativement, donc il faut vraiment l'utiliser avec, enfin il faut vraiment le nommer là où est vraiment la crise, là où est vraiment le problème, et pas stigmatiser des personnes avec ça. Le problème n'est pas réglé, je veux dire, aujourd'hui encore vous avez des milliers de personnes qui croupissent dans des camps en Grèce. L'Europe n'a pas du tout joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, les États n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer, ils ne le jouent toujours pas, et on aurait tout à fait pu mettre les ressources qui sont mises pour la sécurisation, pour la répression, dans une politique d'accueil. Et il n'y aurait eu aucun problème, à mon avis, pour gérer cet afflux de personnes.
Alors, c'est très bien parce que cette question vient à point nommé. Je voulais t'interroger sur justement quel est le rapport avec les médias de masse, en ce qui concerne justement également les institutions et les politiques. En ce qui concerne les chiffres et les mots, on sait que le champ sémantique en dit long. On sait que les chiffres peuvent être souvent, pas manipulés, pas changés, mais disons en tout cas orientés d'une certaine manière. Je prends un exemple concernant le champ sémantique. On a par exemple une référence. Lorsque l'on parle d'expatriés, évidemment que c'est beaucoup mieux connoté que lorsque l'on parle de réfugiés économiques, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le choix des mots n'est jamais neutre et n'est pas anodin et qu'il contient des conséquences. Et est-ce que à cela êtes-vous sensible ?
Oui, alors nous, on est très sensibles à ça, évidemment. D'ailleurs, petite anecdote quand même, je trouve vraiment intéressant ce que tu as dit, parce que je suis à Solidarité sans frontières, on fait partie du réseau européen Migre-Europe. Enfin, pas seulement européen, justement, en fait. Dans Migre-Europe, il y a aussi des associations, par exemple, africaines. Et du coup, il y a je ne sais plus d'où il vient, je crois du Togo, un Togolais qui écrit régulièrement sur cette liste qu'on a pour échanger. Et lui, dans ses articles, quand il parle des Européens qui sont installés au Togo ou ailleurs, il parle toujours des migrants européens. Et c'est vrai qu'on n'entend pas souvent cette expression. En fait, on l'entend jamais.
Ouais, de renverser les trucs, c'est déjà intéressant.
Mais oui, non, mais alors oui, on est tout à fait sensible à ça. Il y a toujours une réflexion sur les termes qu'on utilise. D'ailleurs, puisqu'avant on parlait de féminisme, quand moi je suis arrivée aussi à Solidarité sans frontières, il a fallu choisir comment on allait utiliser le langage épicène aussi. Donc c'est pas seulement les mots, parce que avant le bulletin était toujours traduit de l'allemand en français, mais c'était fait un peu comme ça. Donc là, c'est aussi des trucs à réfléchir. Il faut savoir qu'aussi dans les régions germanophones, il y a aussi toute une réflexion sur ça. Par exemple, eux, ils ont carrément arrêté de dire Flüchtlinge pour réfugiés. Ils disent Geflüchtete, qui veut dire personne en fuite, pour inclure un maximum aussi de personnes. Et puis, par rapport aussi à la question des médias, donc nous, on est très proche de l'association Vivre Ensemble, que peut-être vous connaissiez, qui fait le comptoir des médias, notamment.
On va saluer également Christine Adelbiadjo, qui m'a dit d'ailleurs, mais voilà. Qui est venue moult fois à la radio s'exprimer.
Ouais, qui est super. Ouais, donc, on est en train de traduire en allemand le mémo qu'ils ont fait à l'attention des journalistes.
Excellent.
Enfin, c'est-à-dire, on l'a traduit, maintenant, on va l'éditer, et puis on va essayer de faire un travail un peu à ce niveau-là, qui est très nécessaire aussi dans les médias germanophones.
Ouais. Donc voilà, on peut dire que vous êtes sur le coup là-dessus également. C'est vrai que nous, alors Vivre Ensemble, c'est une parmi des entités avec lesquelles on travaille beaucoup, et on observe justement ces glissements de sens qui sont souvent faits, ces raccourcis qui sont souvent faits, effectivement, les conséquences qui vont avec. Je voulais en revenir, on parlait un petit peu de chiffres, mais je voulais en revenir avant à, justement, lorsque l'on parle de somme d'argent, puisqu'on vient de voir cette courte fiction qui concerne le peuple sahraoui. On en a parlé tout à l'heure quand on parle des murs, parce qu'on s'aperçoit peut-être que les gens ne l'entendent pas ou ne s'en aperçoivent pas, mais les murs sont de plus en plus nombreux, s'érigent et s'allongent, alors que l'on pourrait penser peut-être qu'à l'inverse de cela, eh bien, on était dans une phase où on les briserait. Ce n'est pas le cas. Et j'imagine que ça fait partie également de vos inquiétudes et de vos observations. Si on prend l'exemple du mur de sable pour le peuple sahraoui, en plus on sait que la somme qui y est allouée permettrait de régler le problème si cette somme n'était pas utilisée pour le mur. Alors qu'en est-il de la situation des murs ? Est-ce qu'à Solidarité sans frontières, vous êtes alerte par rapport à ça ?
Bien sûr. D'ailleurs, il y a une intellectuelle française qui s'appelle Claire Rodier, qui a écrit plusieurs livres sur l'immigration, qui dit « Parler du mur joue la même fonction que le mur en lui-même » ou quelque chose comme ça. Après, ce qu'il faut, et cette personne, elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « Business de l'asile », je crois, ou quelque chose comme ça, qu'il faut déjà pas oublier avant tout, à mon avis, quand on parle de ce sujet, et malheureusement, on n'y pense pas toujours trop, c'est que derrière chaque décision politique en matière de sécurisation des frontières, en matière de banque de données, de prise d'empreintes digitales, de politique d'asile, il y a un business. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup à ce que coûtent les réfugiés en termes de sécurité sociale ou de centres ou de choses comme ça. Mais en fait, on ne pense pas que là derrière, il y a des acteurs privés qui s'enrichissent énormément et qui influencent beaucoup les politiques. L'Europe se barricade pour des raisons politiques, mais aussi financières, à mon avis. Il y a des grosses entreprises qui fabriquent des armes, qui les vendent dans des pays du Sud, qui provoquent des guerres, etc., qui provoquent des réfugiés. Puis ces mêmes fabriquent des détecteurs de battements de cœur, des détecteurs d'empreintes, des machines qui prennent les empreintes digitales. Tout un tas de matériel de surveillance très développé reçoivent pour ça beaucoup d'argent de fonds nationaux, européens, enfin d'argent public, quoi. Et c'est aussi ça que j'avais derrière la tête quand je disais la question de la crise et comment on gère une crise, comment on utilise les ressources à disposition pour faire quoi. La question un peu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut continuer de dépenser la richesse qu'on crée ou que d'autres créent pour construire des murs, pour sécuriser des frontières, pour construire tout un système répressif, ou bien on veut l'utiliser pour construire une société où on vit ensemble un peu correctement, quoi.
On va parler à une question.
Ouais, c'était juste pour une question sur les différences de politique. Il y a quand même eu en Allemagne une politique qui visait à essayer d'inclure 1 million de réfugiés le plus rapidement possible d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat ?
Bon, je pense que je pense que Angela Merkel a pris cette décision pour différentes raisons. Mais je pense que si elle ne l'avait pas prise, l'Union européenne explosait, quoi. Donc je pense que c'était une décision bien réfléchie, c'est-à-dire qu'à mon avis, la raison principale n'était pas une raison humanitaire ou comme ça, c'était plutôt parce que l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre et puis parce qu'il fallait faire quelque chose, parce que ces gens arrivaient, ils étaient bloqués, et puis il y avait un moment donné où il fallait une décision pour pas que tout le système pète, à mon avis. Cela dit, c'était ça qu'il aurait fallu faire aussi ailleurs. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, il faut aussi donner les conditions de l'accueil. Parce que ce qui s'est passé aussi en Allemagne, et c'est ça aussi que les associations que nous, on connaît en Allemagne critiquent, c'est que tout d'un coup, on a dit on accueille toutes ces personnes, mais en fait, il n'y a pas eu les moyens qui ont été donnés pour que ces personnes puissent vraiment être accueillies dignement, puis qu'elles puissent aussi, ben voilà, qu'elles puissent être hébergées dans des conditions un peu correctes, qu'il y ait toutes les conditions aussi cadres qui soient mises en place pour que l'accueil se passe comme il faut. Je pense que ça, c'est aussi un point très important. Cela dit, la Suisse aurait dû accueillir beaucoup plus de monde et devrait aussi commencer par arrêter d'utiliser à ce point le règlement Dublin pour expulser les gens, puis prendre ses responsabilités, puis accueillir les personnes qui sont ici comme il se doit, quoi.
La question qui revient quand même à l'ordre du jour, c'est cette question du pourcentage. Ça veut dire, en tout cas, les États le discutent de cette façon-là. Quel est le pourcentage de réfugiés que chaque pays devrait accueillir sur son sol? Et il y a des politiques qui sont très très différentes. C'était ça aussi dans ce sens-là. Il y a des politiques qui sont vraiment très différentes.
Oui. Je ne sais pas si c'est une question de pourcentage. Pour l'instant, pour moi, ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est qu'il y a une sorte de grand théâtre. L'Europe est en crise. L'Europe comme construction, mais aussi les États sont en crise. Les gens, vous avez peut-être parlé avec les gilets jaunes ou des gilets jaunes après. Enfin, il y a vraiment une crise sociale en Europe. Et puis on a des dirigeants qui se livrent, pour moi, à un spectacle pour détourner la population des questions qui la concernent directement. En Suisse, on a environ 1% de personnes qui relèvent du domaine de l'asile. C'est rien. Enfin, qui relèvent. Donc ça veut dire les requérants d'asile, les personnes qui ont obtenu le titre, les personnes permis F, etc. Donc c'est vraiment pas, on n'est pas dans la théorie du grand remplacement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, hein. Non, nous, on a des gens qui nous disent, mais vous savez pas, vous défendez les musulmans, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est nous envahir, quoi. Non, mais là, on est vraiment dans des peurs, dans des fantasmes qui sont alimentés, hein. Il y a des gens qui en profitent, bien sûr. Je pense, au-delà du pourcentage, il y a vraiment aussi la question de comment on traite ce sujet, quelles conditions on donne aux personnes qui arrivent, et en fait, tout ça, c'est très lié finalement à quel est notre projet de société. Ça touche, c'est beaucoup plus large que la question de la migration.
Et les valeurs qui nous mènent, etc. Ouais. etc. J'aimerais revenir effectivement, alors nous allons parler un petit peu des campagnes que vous mettez en place. Et évidemment, on va parler un petit peu quand même du règlement Dublin, parce que c'est quelque chose de central, en tout cas pour la Suisse, et qui est effectivement extrêmement utilisé. J'aurais voulu peut-être tout de même t'entendre sur cette horreur qui vient d'être commise, hein, avec ce délit de solidarité consacré, parce que ça fera jurisprudence à Briançon, avec les 3 plus 4, hein, comme on les nomme, ces personnes qui ont essayé de sensibiliser déjà les personnes sur ce qui se passe au col de l'échelle, ce qui se passe dans les montagnes, qui se transforment en cimetière maintenant, puisque des passeurs vont et abandonnent des personnes en plus non pas vêtues comme il se devrait dans les moments de... Voilà. Et ces personnes ont été donc condamnées, alors la plupart d'entre elles effectivement avec du sursis, dont des camarades à nous, de Genève, effectivement. Voilà, alors quelle est votre position par rapport à ça? Là où on consacre d'une certaine manière justement ce délit de solidarité.
Ouais. Bon, peut-être juste déjà pour dire, je trouve que c'est quand même important aussi de le mentionner. Quelques jours avant les 3 plus 4, il y a eu quand même l'acquittement de Cédric Héroux et de plusieurs activistes en Belgique. Fait. Et je trouve ça aussi important de donner les bonnes nouvelles parce que sinon on est un peu abattu.
Ah, absolument.
Mais ouais, effectivement. Bon, alors par rapport aux 3 plus 4, les 3 plus 4 pour moi, c'est la justice française qui se met au service d'un projet politique. Donc en fait, là, on est typiquement dans un cas où... Enfin, vraiment, on a l'impression qu'ils avaient envie d'utiliser cette condamnation contre quelqu'un, puis ils ont choisi 7 manifestants dans cette manif qui a traversé le col, et puis ils leur ont collé ça sur le dos, aide au passage, aide à l'entrée illégale, et ils veulent vraiment faire un exemple avec ces personnes. Je suis très contente qu'ils fassent appel, parce que... Enfin, ce que j'ai aimé avec les 3 plus 4, c'est que les 7, ils ont vraiment dit dès le début, nous, on veut utiliser ce procès pour parler de ce qui se passe en Europe, pour parler de ce qui se passe aussi dans les pays d'origine. Et puis, moi, j'ai organisé une conférence avec eux à Genève, à l'université, avec Bastien et Théo. Et puis, on a fait venir Emmanuel Mbolela, qui est un réfugié congolais, qui a écrit un bouquin sur toute la trajectoire entre le Congo et l'Europe. Et puis, Charles Heller, que vous avez peut-être déjà eu ici aussi, qui est aussi un spécialiste. Et c'était vraiment génial, parce que eux, leur but, c'est vraiment de dénoncer, en fait, autant les rapports de domination nord-sud que tout ce qui se passe le long des parcours migratoires. Maintenant, le délit de solidarité, oui. C'est vraiment... nous, on est complètement opposés à ça. On a notre ancienne secrétaire générale qui a aussi été condamnée pour aide à l'entrée illégale, Annie
voilà,
Lantz.
Sur laquelle il faudrait qu'on revienne un petit peu.
C'est similaire. Après, je dis juste encore par rapport aux 3 plus 4, quand même, de la prison, même si c'est avec sursis, c'est quand même hyper grave.
Incroyable.
C'est vraiment hyper grave d'être allé jusque-là. Et j'ai suivi sur Twitter le procès. Et vraiment, ils les ont traités comme des criminels, comme si c'était des trafiquants ou je sais pas quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment scandaleux.
Et après, on va revenir sur le cas justement en Suisse, hein, d'Annie Lantz. Et il y avait également, également d'autres, une députée notamment socialiste au Tessin qui fait partie de Fordhaus.
Elisa Bossière.
Exactement, qui elle aussi a été emprisonnée pour vouloir avoir fait passer des mineurs non accompagnés qui auraient dû légalement être accueillis.
Bah en fait, Lisa Bossière, elle n'a pas été emprisonnée. Elle a reçu une amende de 8 000 ou 9 000 francs, ce qui est énorme. Mais en fait, oui, ce qui se passait à la frontière sud de la Suisse, et moi j'y suis allée à Côme, c'est qu'en fait c'était les gardes frontières suisses qui avaient des pratiques illégales. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui passaient la frontière, qui disaient « je veux demander l'asile » et puis ils les renvoyaient, ils les refoulaient en Italie, ce qui est complètement illégal, même selon les accords de Dublin et tout ça. Donc en fait, elle a vu la situation, c'était quand même assez impressionnant, des centaines de personnes qui campent dans un parc à l'entrée de la Suisse, dont beaucoup de mineurs. Et puis, elle a commencé à faire des recoupements. Toi, tu veux aller où? Pourquoi? T'as de la famille, etc. Et puis, comme ça traînait, puis ça avançait pas, finalement, elle les a pris dans sa voiture, puis elle a essayé de les amener. Certainement, elle était surveillée. Bon, finalement, elle s'est fait attraper, puis elle a eu cette amende.
Tu t'y es rendu à Chiasso?
J'étais à Côme.
Et là, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était la position de la population locale? Parce que c'est assez intéressant de voir également que des personnes se sont tout de même solidarisées.
Tout à fait. Partout où il y a un réfugié, il y a des gens solidaires. On parle toujours des fachos, mais en fait, il y a plein de gens qui font des trucs bien.
Ça, c'est important de
le
dire également.
C'est important
parce
de le dire.
Les gens viennent donner à manger, préparent à manger.
Mais oui, tout à fait. Mais c'était, je veux dire, pendant tous les jours, une équipe de bénévoles qui venait cuisiner pour des centaines de personnes. Des groupes locaux, des églises, des trucs qui ont permis aux gens de prendre des douches, d'héberger les mineurs. Enfin bon, il y a eu énormément de solidarité, c'est sûr. Et puis je pense aussi de la part des personnes qui vivaient ailleurs en Suisse, qui ont été très très choquées, parce que c'est quand même autre chose quand on entend parler de Calais ou des frontières en Italie ou en Grèce, mais quand tout d'un coup ça se passe devant chez vous, vous avez envie de faire quelque chose.
Bien sûr. Et il faut notamment, on n'oubliera pas de citer toutes les personnes ici, effectivement, de nos bunkers et compagnie, parce que lorsqu'on en a essayé de démontrer en y allant comme ça, en cache-cache, parce qu'on n'a pas le droit normalement d'aller expliquer avec différentes personnes qu'on ne va pas nommer les conditions de vie dans les abris, c'est horrible, je veux dire. C'est des moments où la lumière est tout le temps là, où comme les lits sont superposés, n'importe qui arrive et puis ça fait trembler tout le monde et personne ne dort. On ne peut pas y préparer de quoi s'alimenter. Des caméras sont disposées un petit peu partout. Enfin, ce sont des conditions absolument atroces, réellement, concrètement inhumaines, je veux dire. Revenons-en à Annie Lantz, parce qu'effectivement, donc elle était secrétaire générale, si je ne me trompe pas, de Solidarité sans frontières. Et elle a connu exactement le même sort. Elle s'est fait pour avoir voulu faire passer un Afghan, si je ne me trompe pas.
Alors, Annie Lantz, c'est une personne qui va toutes les semaines visiter les gens qui sont en détention administrative dans la prison de Bâle, la prison de renvoi de Bâle. Donc, elle a 72 ans. Toute sa vie, elle s'est battue. Et puis, elle rencontre des personnes qui vont être renvoyées. Puis, avec sa petite association de quelques personnes, comme ils sont déjà en prison, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que les aider une fois qu'ils seront renvoyés. Donc, en fait, ils leur donnent un peu de sous, ils leur donnent des habits chauds, enfin, un peu le truc, des adresses aussi, dans le pays vers lequel ils vont se faire renvoyer. Souvent, c'est l'Italie. Et là, en l'occurrence, elle est tombée sur un jeune, sur un Afghan qui était gravement traumatisé, le père, la femme et le fils ont été assassinés en guise de représailles par les talibans en Afghanistan. Et il est venu en Suisse parce qu'il a une sœur et un beau-frère qui vivent à Bâle. C'est la seule famille qui lui reste. Il y a eu beaucoup de rapports. Il y a tout un réseau de personnes. Quand on a un cas comme ça, on a des gens qui disent « voilà, on va vous amener chez un médecin ». Donc un réseau de personnes solidaires, qui se procurent des certificats médicaux, qui vont faire une visite chez le médecin, etc. pour montrer qu'il allait vraiment mal. Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, plusieurs tentatives de suicide. Et malgré ça, le canton l'a mis en détention et a fini par le renvoyer. Cette personne est arrivée à Milan en pleine nuit. Il ne voulait pas demander d'asile en Italie, il voulait le demander en Suisse. Donc il n'a pas déposé de demande d'asile, donc il n'a pas eu d'accès à un logement. Enfin, je précise que les personnes qui demandent l'asile en Italie n'ont pas toujours non plus l'accès à un logement, mais lui en l'occurrence encore moins. Donc il s'est retrouvé en février dans les rues de Milan, sans habits chauds, sans rien. Petite il a dormi plusieurs nuits dehors et finalement il a quand même réussi à revenir à Domodossola, près de la frontière suisse, à essayer d'entrer, il n'a pas réussi. Il est resté à la gare et au bout d'un certain temps, quelqu'un lui a prêté un téléphone et il a pu contacter sa sœur et donc Annie Lantz a appris. Et donc elle est partie, d'abord elle a essayé de l'aider sur place, donc de trouver une solution pour lui en Italie, mais il n'y avait pas de solution, il n'avait pas de papier, il était sans papier. Donc en Italie, c'est aussi beaucoup criminalisé hein, d'aider une personne sans papier, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi des peines assez lourdes pour ce genre d'aide, donc personne ne pouvait l'aider. Et puis finalement, ils ont décidé d'essayer de le ramener en Suisse, puis ils se sont fait arrêter à la frontière. Mmh. Et donc elle a été condamnée à 300 francs d'amende, plus je crois 50 jours amende à 30 francs, enfin bref, en tout ça faisait 1800 francs. Et puis elle a fait recours. Il y a eu une audience au tribunal de Brive, il y a eu le jugement qui a été donné maintenant. On était présents au tribunal pour la soutenir avec une cinquantaine de personnes. Et puis donc ils ont confirmé le verdict, ils ont baissé un peu l'amende, mais sur le fond. Le procureur et le juge ont considéré que c'était quand même une violation de la loi sur les étrangers. Voilà.
Ouais. Voilà, ça c'est un des problèmes vraiment majeurs, c'est qu'on voit bien que le délit de solidarité de nouveau est consacré en France et également en Suisse, parce que même si les peines sont des fois allégées, elles restent des peines et elles sont là et elles peuvent être par la suite appliquées dans toute leur latitude et dans toute leur sévérité si on le souhaite.
Laure. Est-ce qu'un juge qui serait touché par cette histoire, est-ce qu'il peut ne pas donner de peine ? Techniquement.
Oui, je pense, parce qu'elle faisait référence à des, comment on appelle ça, j'ai plus le mot en français, des motifs supérieurs, c'est-à-dire non-assistance à personne en danger, c'est aussi un crime. Mm-hmm. Donc elle faisait référence aussi à ça, donc je pense qu'il pourrait se référer à ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, l'article 116 de la loi sur les étrangers ne prévoit plus, avant c'était dans l'ancienne loi, maintenant plus, de motifs honorables. Donc avant, il y avait, si on aide quelqu'un pour des motifs honorables, on est exempt de poursuite. Ouais. C'est plus un délit. Mais et ça n'existe plus depuis une dizaine d'années. Ouais. Et donc, je crois, ouais.
Et le point, d'années. Il est là.
Le point est là.
Ça fait jurisprudence, c'est que selon le juge sur qui tu tombes...
Mais elle va continuer, parce que là, c'était le... Bon, je pense le juge de Brigue, il avait peut-être pas... Enfin, je sais pas, peut-être pas le courage d'aller plus loin, mais elle va continuer, s'il le faut, jusqu'au tribunal fédéral, probablement. Donc peut-être que là, on pourrait avoir une... Le but, c'est quand même de changer la jurisprudence, évidemment. Ouais. Mais après, l'autre but, c'est de changer la loi, parce que il y a une députée de chez vous, une parlementaire de chez vous, Lisa Mazone, la conseillère nationale, qui a déposé une initiative parlementaire pour réintroduire cette histoire des motifs honorables dans l'article 116 de la loi sur les étrangers. Le Parlement actuel, ce sera difficile de faire passer, mais enfin, je veux dire, c'est quand même, ce serait pas très compliqué techniquement de changer cet état de fait. Et comme il y a quand même beaucoup de monde qui sont concernés par ça, il y a plus de 1000 personnes en Suisse l'année passée qui ont été condamnés pour violation de la loi sur les étrangers, l'article 116. Vous voyez, c'est pas seulement des gens qui passent la frontière ou qui aident, qui se disent solidaires ou quoi. Simplement, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est sans papier, qui n'a pas de statut de permis de séjour en Suisse. Vous l'hébergez pour une nuit, vous avez violé la loi sur les étrangers, article 116. Ouais. Donc, il y avait vraiment... En fait, si vous voulez, on est dans une situation où non seulement, en fait, les personnes solidaires sont criminalisées, les migrants sont criminalisés, mais en fait, toute forme de lien, toute forme d'échange avec une personne sans statut légal est en train d'être criminalisée.
Tu sais pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée, cette notion ?
Contexte politique, majorité de droite, et puis un durcissement sur ce genre de questions avec le renforcement de l'UDC. Ouais.
Alors voilà, on va quand même dire que... Pardon.
Non, pardon, je voulais quand même juste dire, parce que j'ai un peu regardé les chiffres, on a un petit peu analysé ça avec mon collègue. Ce qui est quand même intéressant, c'est que l'argument, c'est toujours de dire on a cette interdiction de l'aide à l'entrée illégale, pour lutter contre le crime organisé, les passeurs et tout ça. Et on est d'accord. Il le faut, ça. Mais en fait, on voit dans les statistiques qu'il y a 1200 personnes, je crois, l'année passée, qui ont été condamnées pour violation de cet article. Mais on a la précision de combien ont été condamnées pour avoir agi, je ne sais plus comment ça se dit, mais pour des motifs financiers. Et puis, c'est quelque chose comme 90 personnes. Donc, l'immense majorité, ce n'est pas du tout des cas où des gens s'enrichissent sur la détresse d'autrui. C'est vraiment simplement, quelqu'un se marie avec une personne sans statut légal, cette personne va vivre chez elle, sans statut légal. Au moment où elle se dévoile devant les autorités pour se marier, on lui dit « Ah, mais il a vécu 4 ans chez vous, donc vous devez payer 4000 francs d'amende parce que vous avez violé la loi sur les étrangers. » C'est ce genre de personnes qui sont condamnées, plus les personnes solidaires.
Voilà, puis on ne va pas hiérarchiser parce qu'alors là, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. L'évasion fiscale, les délinquants en col blanc, enfin, toutes ces choses-là qui sont effectivement extrêmement, eux, nocifs, qui par ailleurs... Enfin, non, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Parce que
d'accord.
On fera ça à un autre moment. Des petites victoires ont quand même cours et il faut le rappeler. Ouais. Voilà, typiquement l'article 12, on peut revenir là-dessus. aperçus où les personnes qui, à un moment donné, devaient accompagner, devaient se rendre à l'aéroport avant d'aller, pour pouvoir aller toucher leur maigre petit, quelques sous, eh bien, ça a disparu avec la pression de la société civile. Donc, on voit que quand même, des victoires sont possibles maintenant. Effectivement, il y a des choses essentielles, fondamentales, sur lesquelles il faut peser. Et j'imagine que c'est extrêmement dur. Alors, voudrais-tu nous dire quelques mots et puis ensuite, parce qu'on arrive doucement quand même à la fin de l'entretien, on reviendra sur ces choses-là, puis on aura l'occasion de se revoir de toute manière, sur effectivement cette condition, cette application du règlement Dublin. Voudrais-tu en quelques mots, parce que ça, c'est effectivement quelque chose de terrible, quoi. Et beaucoup de gens l'entendent sans en comprendre les enjeux. Est-ce que tu rêverais à nous faire un petit tableau comme ça, nous ?
Alors, c'est important d'en parler parce que maintenant, c'est les 10 ans. Solidarité sans frontières, on a toujours été opposé à l'adhésion de la Suisse à Schengen-Dublin, et j'aime bien le dire parce qu'à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, quand il y a eu la votation, on était la seule organisation de gauche, en tout cas à ma connaissance, au niveau national, qui a été opposée à ça. Tout le monde disait Schengen-Dublin, c'est la coopération, c'est l'ouverture à l'Europe, Voilà. Ben voilà, maintenant on voit que Dublin, c'est le chacun pour soi, c'est on se renvoie la responsabilité entre les États, etc. Moi, à l'époque, j'avais même pas le droit de vote, donc je fais pas ma maligne, mais mes collègues avaient vu quand même quelle était la nature de ce règlement Dublin, et c'était opposé. Ça avait pas été facile, parce qu'on nous avait aussi bien jeté la pierre en disant « Ah, mais vous faites le jeu de l'UDC, vous faites le jeu de l'extrême droite ». Et maintenant, on voit le résultat. Je pense que tout le monde dans le camp maintenant est soit critique, soit complètement contre Dublin, dans le camp des défenseurs du droit d'asile. Alors, la Suisse, en 10 ans, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a renvoyé environ 30 000 personnes en vertu, entre guillemets, du règlement Dublin. 30 000 personnes, elle en a accueilli 6 600, je crois, selon ce même règlement. Donc déjà, ça nous montre bien comment la Suisse utilise ça pour se décharger de ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, elle participe à un système qui est déséquilibré ou qui est injuste déjà, qui est le contraire de solidaire si on veut au niveau des États, parce que ça veut dire on se décharge de notre responsabilité sur d'autres, comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Espagne. Ça, c'est une chose. Mais après, ça veut dire aussi complètement nier le choix des demandeurs d'asile de déposer une demande d'asile pour X ou Y raison là où ils le souhaitent. Voilà. Ça veut dire aussi la violence des renvois. Donc la violence des renvois, c'est 12 flics cagoulés qui débarquent à 5h, 6h du matin pour embarquer une femme enceinte et sa fille, par exemple.
Les vols spéciaux.
C'est la retraumatisation des gens, parce que quand vous avez fui déjà un conflit, quand en plus vous avez fait un parcours migratoire où certainement vous avez subi toutes sortes d'abus, puis qu'ensuite vous arrivez à retrouver un semblant de stabilité, puis que vous vivez ça, ben c'est foutu, vous repartez à zéro. Et puis après, c'est toute une série de violations de droits humains, c'est séparation des familles, c'est renvoyer quelqu'un dans une situation où, par exemple, sans hébergement, à la rue, comme ça se passe en Italie, mais aussi vers la France. En France, il y a des listes d'attente dans certaines régions pour pouvoir déposer une demande d'asile. Ça veut dire que pendant le moment où vous attendez, vous n'avez pas d'hébergement, vous n'avez rien. Et puis, c'est, c'est des fois la suspension d'un traitement médical important, etc. Ouais. Donc, le système Dublin, il faut vraiment le combattre. Il ne faut pas se contenter de demander des petites réformes. C'est vraiment dans son fondement même qu'il faut complètement repenser comment on veut accueillir les gens en Europe, en Suisse. Et puis, peut-être que je dirais quand même qu'en Suisse, vraiment, on a développé une lutte quand même très forte contre les renvois Dublin. Collectif R, à Lausanne, ils ont évité près de, 160-170 renvois. Alors, c'est pas fini quand on évite un renvoi, parce qu'après, la personne, elle entre dans le système d'asile suisse. Il faut continuer. Eux, ils continuent à suivre après les personnes. Il y a Solidarité Tat, il y a des droits de rester, il y a nous. Il y a quand même vraiment des victoires individuelles. Maintenant, ce qu'il faut bouger, c'est au niveau politique. Il faut absolument qu'au niveau politique, ça bouge. Le Conseil fédéral n'a aucune envie de bouger. On a remis 33 000 signatures de personnes et 200 signatures d'organisation avec l'appel Dublin pour demander de ne pas renvoyer les personnes vulnérables. Donc c'est même pas, on leur demande pas de faire la révolution. Ils ne veulent pas changer une virgule à leur pratique. On a encore des cas de personnes victimes de traite qui se font renvoyer en Italie. On a encore des choses comme ça qui se passent toutes les semaines. Donc maintenant, il faut vraiment que ça change au niveau politique. Mais je pense que la pression est là. Franchement, la pression est là. Et puis même au niveau maintenant aussi européen, la pression est là.
Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Et effectivement, on va peut-être terminer cet entretien, à moins que des questions ne surgissent encore. On va terminer sur une bonne nouvelle, enfin, sur ce bon signe, même si effectivement, il y aura, et on reviendra là-dessus, mais il y aurait d'autres arguments sur lesquels s'arrêter, les listes de pays vers lesquels on peut ou pas renvoyer qui changent. Enfin, il y a des choses vraiment extrêmement, extrêmement absurdes et qui démontrent bien la dureté de ces réseaux-là. Quoi qu'il en soit, Amanda, je te remercie beaucoup
d'avoir
répondu à toutes ces questions, de nous avoir renseignés. On va juste encore dire que le site internet, c'est donc www.sosf.ch, qu'il y a un formulaire de contact avec, voilà, on peut dire son nom, son prénom, tout ça. Et puis que, voilà, c'est une des manières de solidariser, c'est de devenir membre, par exemple, ou en tout cas de s'enquérir de ce qui se passe en Suisse en allant sur le site internet de Solidarité Sans Frontières. Et puis, voudrais-tu peut-être, pour en terminer, lancer un dernier appel ou la prochaine actualité, vraiment les prochaines choses? Effectivement, il y a les 10 ans des renvois à Dublin.
Alors je dis très vite, en mars prochain, il y a la nouvelle loi sur l'asile qui va entrer en vigueur dans toute la Suisse. Alors organisez-vous, entrez dans les groupes, que ce soit pour être bénévole, pour être militant, pour faire de la défense politique, peu importe, mais organisez-vous. Cette réforme, elle va changer beaucoup de choses. Les gens vont être centralisés dans des grands centres assez isolés. À Genève, vous risquez d'avoir un grand centre d'expulsion près de l'aéroport.
Ben oui,
il y a plein de choses qui se passent contre la construction de ce centre. Il faut vraiment se mobiliser. Donc moi, j'ai qu'un message, c'est garder l'espoir, se bouger sérieusement. L'engagement, c'est un truc sérieux. Et puis, ne pas baisser les bras, pas s'imaginer qu'en 2-3 semaines, on va changer le monde, mais il faut y aller, il faut se mettre ensemble et puis il faut avancer. Voilà,
je te remercie beaucoup, beaucoup de toutes ces informations-là. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, nous, on rappelle que sur le site de Libre Radio, nous avons une page Refugees Welcome Exprès qui recense plein d'entretiens avec notamment Christina Del Biagio, mais d'autres également, avec des personnes, des sauveteurs du col de l'échelle, hein, qui ont matériellement sorti des gens de la montagne en hélico. Et puis, tous ces liens de ces différentes associations, de la société civile qui mènent ce combat et qui vont certainement continuer à le mener. Bravo à toi de le mener et de continuer de le mener.
Bravo.
Et puis
tu
trouves chez nous, bien entendu, des alliés indéfectibles. Sois-en sûr. Voilà. Super. On se fait une petite pause musicale et on revient. On va parler normalement. On va faire tourner des trucs avec une manivelle. C'est parti.
Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day is a day, oh.
Daylight come and me want go home.
Day is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
Day is a day, oh.
Daylight come and me want go home.
Day. Is a day, is a day, is a day.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Day-oh.
and me one go home.
Misette, 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 misette.